Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Good Morning Business, le grand débat.
Et notre grand débat aujourd'hui, c'est avec Florence Verzelaine. Bonjour, directrice générale adjointe de Dassault Systèmes en charge de l'industrie, du marketing et du développement durable. Mounir Laghoun est avec nous également, cofondateur et président de Finari. Karima Deli, députée européenne Europe Écologie Les Verts, avec nous en visio. Et puis Emmanuel Lechypre est également avec nous. On a beaucoup de sujets sur la question de l'énergie et aussi bien sûr des sujets bancaires. On va commencer avec le nucléaire, hein, puisqu'on était il y a quelques instants avec le patron de Framatome. Le nucléaire qui est redevenu une super énergie, on en veut, on accélère, on est sur tous les plans. Karima Deli, députée européenne Europe Écologie Les Verts, comment vous voyez l'évolution de ce débat en France? Maud Bréjon disait aujourd'hui, quand on est écolo, on est pro-nucléaire.
Bah non, on n'est pas pro-nucléaire. Moi, je trouve qu'on est dans une trajectoire que personne ne comprend. En 2017, on a un président de la République qui nous promet de baisser la part du nucléaire. Aujourd'hui, vous relancez le tout nucléaire. On est dans une France un peu des années 70, avec un EDF qui est nationalisé, un patron qui est viré, un plan de centrale nucléaire à 50 milliards dédiés et décidés entre politiciens, sans consultation, personne. On a l'IRSN qui tire la sonnette d'alarme et qui est dissous. Vous voyez, c'est quand même incroyable la situation dans laquelle on est. J'ai vraiment ce matin une petite pensée pour notamment les salariés de l'IRSM, parce que cet institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et là, je le dis, hein, c'est assez grave ce qui est en train de se passer. Nous, les écologistes, on est des pragmatiques. On ne dit pas qu'on va sortir du nucléaire du jour au lendemain. Vous voyez, on a besoin justement de planifier pour une sortie d'ici 20, peut-être 25, voire plus, on n'en sait rien pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement, et je pense qu'il faut le dire hein, sur votre antenne ce matin, a dissous dans un coin de table l'Institut indépendant de sûreté nucléaire, et moi je trouve que c'est un très mauvais signal. Moi je crois que l'IRSM paie notamment la quarantaine de réacteurs nucléaires fermés à l'automne dernier, et je pense qu'on va parler... On ne peut pas parler de nucléaire si on ne parle pas de sûreté nucléaire.
Mais en fait, il va être fusionné.
Je pense qu'on va en parler sur votre plateau.
Karima Deli, il va être
fusionné. On parle de soudure défectueuse. Donc, le gouvernement nous pond un texte sans consulter personne. Même le Conseil d'État n'a pas été consulté. On va devoir découvrir encore une fissure à la centrale de Pont-Ly. Moi, j'ai pas envie d'avoir que nos yeux pour pleurer dans quelques années.
Karima Deli, cet institut dont vous parlez va être fusionné avec l'autorité de sécurité nucléaire. Est-ce que vous estimez que l'ASN n'est pas fiable et ne pourra pas, elle aussi, émettre des alertes sur l'état des centrales? Vous avez une suspicion de non-indépendance de l'ASN?
Moi, ce que je dis, et qui est très sérieux, c'est lorsqu'on parle de sûreté nucléaire, l'IRSN est un véritable objet indépendant qui fait un travail extraordinaire, hein, vous voyez. Et je pense qu'il faut vraiment le préserver. Maintenant, la véritable question dans votre débat, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en débattre avec les autres intervenants.
Alors justement.
Mais la question, c'est qu'en 2023, est-ce qu'on a besoin encore de centrales, au fait?
Ah bah, Emmanuel Lechypre, justement, a posé la question à Emmanuel Lechypre, à nos invités en plateau. En 2023, est-ce qu'on a encore besoin de centrales, Emmanuel?
Bah, je crois que la réponse, effectivement, elle est donnée aujourd'hui. C'est-à-dire que même par les Français, il n'y a pas, c'est assez intéressant de voir qu'il n'y a pas un seul mouvement politique dans lequel on est contre le nucléaire majoritairement. C'est-à-dire que même quand on regarde les sympathisants écologistes, là, je ne parle pas des militants d'Europe Écologie Les Verts, mais quand vous regardez tous les sympathisants des partis politiques, même chez les écologistes, aujourd'hui, il y a une majorité qui est favorable au nucléaire parce que...
Absolument,
c'est pas vrai. Vous regardez les derniers sondages, vous avez 53 à 56%.
Vous faites la même étude avec les énergies renouvelables, vous avez 80%.
Mais attendez, mais à arrêtez d'opposer les deux. Arrêtez d'opposer les deux. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Personne ne dit c'est le nucléaire à la place du renouvelable. Et puis, simplement, vous dites on est dans les années 70. Bah, je regrette qu'on ne soit pas dans les années 70. Parce que dans les années 70, on a été capable de construire une quarantaine de tranches nucléaires. Grosso modo, si vous regardez entre 75 et 85, on a construit une quarantaine de tranches nucléaires. Il y avait 5 ans à peu près entre le moment où on a lancé la construction et le moment du premier raccordement. Et aujourd'hui, on n'est même pas capable de construire une centrale nucléaire dont la construction a commencé en 2007. Je vous le rappelle. Donc, l'implosion de notre industrie nucléaire, qui est le produit des atermoiements et notamment des atermoiements politiques, parce qu'il n'y a pas que des raisons techniques, et notamment les errements sous l'impulsion des écologistes. C'est-à-dire, quand vous regardez les auditions qui ont été faites, et je ne parle pas de celle de Nicolas Hulot, qui est un pur scandale d'État, quasiment, etc. Je veux dire, vous nous avez conduits dans une impasse énergétique et qui est extrêmement préjudiciable aujourd'hui à la France.
Juste avant de vous rendre la parole, Florence Verzelaine, de directrice générale adjointe de Dassault Systèmes, c'est vous qui concevez justement les usines du futur. Est-ce que, effectivement, comme le dit Emmanuel, on a perdu en capacité industrielle pour fabriquer plus rapidement des réacteurs nucléaires ?
Alors, aujourd'hui, on a perdu en compétences industrielles parce qu'on a perdu en nombre de personnes qui sont formées au nucléaire. Maintenant, on est à un moment crucial dans le monde du nucléaire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, une nouvelle technologie nucléaire est en train d'arriver sur le marché. Cette technologie, ça s'appelle SMR.
Ah, les petits réacteurs.
Modular réacteurs. Des réacteurs de moins de 500 MW.
Ouais.
Et là-dessus, EDF travaille avec le CEA, avec Dassault Systèmes sur un projet. Il y a 70 projets mondiaux de SMR maintenant, qui seront sur le marché en 2030-2035.
Ouais.
C'est demain.
Vous voulez dire qu'on a tort d'aller sur les EPR, qu'il faudrait plutôt multiplier les SMR.
Je dis que c'est complémentaire parce qu'aujourd'hui un EPR permet de produire de l'électricité pour un pays, le SMR permet de produire de l'électricité pour une ville. Évidemment, pour un XSMR, une maison, une installation industrielle.
Aux États-Unis, il y a des startups qui proposent dans quelques années que chaque maison ait sa propre centrale nucléaire.
Exactement, des XSMR. Et pour répondre à Madame la députée, ce qui est extraordinaire avec les SMR, les XSMR et les XXSMR, c'est qu'en fait, un, ils sont produits en usine, donc comme des voitures à la chaîne, donc beaucoup plus rapides à installer qu'un EPR, et ils peuvent fonctionner en flotte, donc vous pouvez en mettre plusieurs si vous avez une plus grande maison. Et puis surtout, chacun de ces SMR sera accompagné de ses jumeaux numériques. Et son jumeau numérique permettra de contrôler tous les aspects du SMR. Donc d'un point de vue sécurité, on pourra avoir toutes les informations en temps
réel. Mais
juste,
vous disiez, on a perdu les compétences. Est-ce qu'on va pouvoir rattraper les années perdues ?
Alors oui, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement français travaille à ce plan de compétences. Nous, Dassault Systèmes, on est très impliqués dans des campus de compétences et de qualifications qui travaillent notamment sur l'industrie du futur. Certains travail sur l'industrie nucléaire, et l'enjeu c'est pas de rattraper les compétences des années 70, l'enjeu c'est de créer les compétences dont on a besoin, liées aux jumeaux virtuels, liées aux technologies d'aujourd'hui, liées aux enjeux de plus petits réacteurs, et ça on travaille dessus. Donc oui, on va pouvoir le rattraper. Après, il ne faut pas se mentir, c'est une course de vitesse. Il y a 70 projets mondiaux, il y en a deux en France, et les premiers qui arriveront sur le marché auront les plus grandes parts de marché. Donc on a un enjeu de rapidité sur ces SMR.
Karim Adeli, un SMR ou un XXSMR dans votre jardin, ça vous dit ?
Moi, je n'en veux pas ni dans mon jardin, ni dans les jardins des Français, en fait. Je pense qu'on n'a pas besoin de centrales. Je pense qu'on est dans un moment énergétique où personne ne parle de la vraie question. Nous devons être dans la sobriété énergétique. La première chose,
vous avez entièrement raison. Karim Adeli, vous avez entièrement raison. La sobriété et la non-carbonation de l'énergie, ce qui est le cas du nucléaire.
Oui,
la
décarbonation, justement, la première chose, c'est taper sur, par exemple, la rénovation thermique. On baisse significativement nos besoins énergétiques. Il faut la rénovation thermique. Juste pour rappel, le chauffage, c'est 40% de notre facture énergétique annuelle. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de mettre le paquet sur les énergies renouvelables qui font parfaitement le boulot aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes les derniers de la classe au niveau européen. Notre mix énergétique, notamment sur les énergies renouvelables, est très, très loin par rapport à d'autres pays comme les Allemands, qui sont à 40%. Nous, on est proche de 18%. On n'a quand même pas le niveau européen. partie de 23.
Mais Karim Adeli, vous avez vu le niveau d'émission en CO2 des Allemands, Karim Adeli, allez voir les cartes. Allez voir les cartes européennes. Allez voir les cartes européennes d'émissions de CO2 par pays et comparez le niveau d'émissions de CO2 de la France et de l'Allemagne. Vous allez voir que. On parle de CO2 ou on parle pas de CO2?
Non, mais on peut parler du CO2, il n'y a pas de problème. Sauf que vous parlez sauf que quand on parle du CO2, il y a aussi les objectifs européens à atteindre sur les énergies renouvelables. On est les derniers de la classe, vous voyez. Maintenant, quand vous me parlez de l'industrie nucléaire, parce que ça, j'aimerais bien qu'on détaille un peu. Parce qu'on ne parle jamais de la vraie problématique. Qu'est-ce qu'on en fait de ces déchets? Quelles sont les tonnes de déchets qu'on va laisser à nos enfants? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les prix. Et je pense qu'on devrait avoir une vraie discussion de vérité. Les prix s'envolent. Les chantiers sont aujourd'hui sans fin. Les défauts, et je le dis, apparaissent tous les jours. Et le prix d'électricité aujourd'hui nucléaire est affreusement cher. Je vais vous faire une petite addition. Vous êtes bien accrochés à vos sièges? C'est assez simple. 50 milliards d'euros pour la construction de nouvelles centrales, 65 milliards de reprise de la dette d'EDF qui vient d'être nationalisée, 20 milliards d'euros de part en 2022, 60 milliards d'euros approvisionnés pour le démantèlement des centrales. En tout, on n'est pas loin de 200 milliards d'euros. C'est vertigineux. Et quand on nous parle aujourd'hui de PR, regardez ce qui s'est passé à Flamanville. Le coût a été multiplié par 6. Vous imaginez un dérapage de la même ampleur sur le même programme? Le démantèlement de Fessenheim, ça a coûté 4 milliards d'euros. Vous voyez, je pense qu'il faut qu'on soit réellement aujourd'hui capable de dire on a les centrales qu'on a, il va falloir les maintenir. Parce qu'il y a des petits problèmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'électricité produite par les énergies renouvelables a beaucoup baissé ces dernières années et elle est moins chère que celle du nucléaire. Et cela va continuer à se creuser. Donc, il y a un enjeu de compétitivité aussi là-dedans. Et je tiens à dire un autre scandale, parce que je l'ai entendu très récemment, c'est que lorsqu'on remarque notamment que désormais, on va aller chercher dans l'épargne des Français le livret A, qui est l'épargne pour le logement en France, pour la rénovation, désormais le gouvernement veut l'utiliser pour financer le nucléaire, et je ne suis absolument pas d'accord.
Vous voyez, et on vous a et on
je pense Emmanuel, que les salariés du aujourd'hui Emmanuel appellent qu'on ait une révision,
juste un mot.
Et pas juste qu'on fasse ça de manière improvisée pour se faire plaisir.
Merci Karim Adeli. Juste un mot peut-être pour vous, Mounir Laghoun, cofondateur et président de Finari, parce que vous utilisez beaucoup d'électricité, notamment dans les data centers, dans le numérique. Pour vous, il faut absolument sécuriser l'approvisionnement en électricité, baisser le prix, et le nucléaire est une solution ou pas?
C'est une solution, c'est même la solution. Le nucléaire, c'est l'énergie du temps long. On a eu beaucoup d'atermoiements dans la politique, on a changé de cap. Aujourd'hui, il faut qu'on garde le cap pour devenir une vraie puissance. L'énergie, c'est une arme, on l'a vu avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et il se trouve que je suis franco-allemand, donc je connais très bien le marché allemand. Quand j'étais petit, on parlait beaucoup de la sortie du nucléaire, et c'est vrai que c'était vraiment décrié. Aujourd'hui, les Allemands font demi-tour concrètement et nous achètent même de l'énergie. Ils nous achètent de l'énergie nucléaire. Et je vous invite à regarder les images de creusement des mines de charbon. On est en train d'enfouir des villages. En fait, on est en train de détruire des villages pour agrandir des mines parce qu'aujourd'hui, l'Allemagne n'a plus assez d'énergie. Donc, on a créé un acte. L'Allemagne a fermé ses centrales pour devenir dépendant du charbon. Donc, c'est une catastrophe absolue. On a l'exemple, le contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire à côté de nous. On a toutes les cartes en main aujourd'hui pour devenir l'acteur du nucléaire. Et comme vous avez dit, le nucléaire, c'est une énergie qui est en train de changer. Donc, il y a des nouveaux réacteurs qui sont en train d'émerger. Il faut investir dans la technologie maintenant pour être l'acteur de demain.
Autre sujet d'actualité, le marché de l'électricité avec cette proposition de réforme qui a été faite hier. Alors, ce n'est pas totalement un bing-bang. Les propositions françaises ont un peu été retoquées. Mais quand même, il y a des PME, des entreprises électro-intensives qui vont pouvoir, Florence Verzelen, pouvoir avoir des contrats longs. On parle de 10, 15 ans. Quand même, ça change tout, ça, non?
Alors, ça change tout parce que c'est ce qui est important pour une PME ou une ETI. Avoir de la visibilité sur le coût de l'électricité à moyen ou à long terme. Et ça, ce qui est super intéressant, c'est que ça va nous permettre de créer une transition pour ces PME et ces ETI. Aujourd'hui, on a 3 défis technologiques. On a le défi technologique des batteries liées aux énergies renouvelables, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore faire des batteries de la bonne taille avec la bonne capacité liée aux énergies renouvelables pour faire de l'énergie baseload. Donc ça, on y travaille dessus, nous, d'AssoSystem également, avec un grand nombre d'entreprises du monde des batteries. Il y a les SMR, technologique arrivera sur le marché en 2030, nous l'espérons. Et puis, il y a la façon dont on peut rendre les territoires autonomes. Et avec des jumeaux numériques de territoire, on peut aller vers l'autonomie du territoire qui lie du nucléaire, des renouvelables.
Et ça, c'est dans 10 ans.
Non, parce que nous, on a déjà fait des projets de ce type. Un de ces projets s'appelle Modeliscale chez Dassault Systèmes. On l'a fait pour Vélizy, on en a fait un autre dans le sud de la France. Il s'agit de modéliser, faire le jumeau virtuel du territoire avec ses capacités de stockage, éventuellement les voitures électriques qui sont des batteries sur roues, avec les énergies renouvelables et lier tout ça aux besoins de l'industrie. Maintenant, ce sont encore des expérimentations. Il va nous falloir du temps.
Entre
pour
temps,
les généraliser.
Faut quand même que le politique fasse quelque chose pour le marché
temps,
de l'électricité.
La réforme du marché de l'électricité telle qu'elle est sortie hier est une très bonne chose pour permettre ces visibilités aux ETI et aux PME et mind the gap jusqu'à ce qu'on ait ces nouvelles technologies totalement sur le marché.
Emmanuel Le Chypre, on était un peu étonné ce matin de voir que beaucoup d'entreprises sont assez contentes des annonces de la Commission européenne, notamment avec cette possibilité effectivement de nouer des contrats à long terme avec les fournisseurs d'énergie pour s'assurer de prix stables dans le temps. Pourtant, la France n'a pas été entendue sur la désindexation de l'électricité avec les prix du gaz.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas fondamentalement de révolution dans le fonctionnement du marché. En revanche, on répond à ce qui est quand même la principale inquiétude des entreprises. Et là, vous avez totalement raison, c'est moins le niveau des prix qui pose problème que la volatilité des prix. En gros, quand vous êtes une entreprise et que vous avez la visibilité sur une donnée, c'est pas le niveau de cette donnée qui vous pose problème. C'est le fait de savoir si ça va augmenter beaucoup ou pas. Et donc, moi, je pense que les entreprises sont plus attachées effectivement à la visibilité qu'au niveau absolu. Et donc, c'est pour ça que cette réforme est bien accueillie.
Il nous reste quelques instants pour parler de la crise bancaire, enfin peut-être la crise bancaire qui est derrière nous, Mounir Laghoun. C'est déjà fini, la Fed a éteint toute possibilité de contagion, on est rassuré, circuler, il n'y a plus rien à voir.
Alors c'est du jamais vu, je pense. On est passé de la banque tout va bien,
très
la banque est en faillite, à la banque a réouvert, puisque hier le PDG disait.
En trois jours.
Open for business.
Venez, il a dit. Ouais.
C'est un nouveau PDG.
C'est un nouveau PDG, Tom Mayopoulos, mais c'est du grand n'importe quoi. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que le Trésor, le gouvernement et la Fed ont compris qu'il fallait intervenir vite. D'ailleurs, M. Biden, le président, a pris la parole à la télévision. Ça veut quand même dire que c'est grave. Par contre, ça a rassuré les marchés. Aujourd'hui, ça veut dire que concrètement, les dépôts dans les banques américaines sont garantis. La Fed fera tout ce qu'elle pourra pour les sauvegarder. Est-ce que la crise est terminée? Je ne pense pas, parce qu'on est dans un environnement où les taux sont hauts. C'est-à-dire que ça ne va pas s'arrêter. On est dans un environnement où il y a de l'inflation. Il y a une crise du pouvoir d'achat total. Donc, en quelque sorte, on a éteint le feu sur Silicon Valley Bank. Les marchés sont encore beaucoup trop hauts. Donc, on est quand même à l'aune d'une crise, je le pense.
Ah oui?
Bien sûr, parce qu'en fait, tout est survalorisé actuellement. Donc,
mais crise de la tech, alors?
Crise des marchés financiers. Crise des marchés financiers, parce que la tech, est bien sûr, était le client principal de Silicon Valley Bank. Mais aujourd'hui, vous avez vu que BNP Paribas a perdu 7%. Lundi, toutes les valeurs
bancaires. Il a retrouvé un peu de valeur hier.
Il a retrouvé 3%, mais il y a 500 milliards de capitalisation boursière qui ont été effacées lundi à l'ouverture des marchés. Ouais. Donc ça veut quand même dire que le risque de contagion, il est réel. Et aujourd'hui, les banques, on a de la chance, font des profits records grâce à notre argent qui traîne dans les livrets et qu'elles peuvent reprêter pour plus cher. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on a un problème de valorisation et les marchés vont corriger. Donc, on n'a fait que repousser finalement l'échéance.
Donc, vous restez très prudent pour votre part chez Finari sur l'évolution des marchés.
Je pense que chez Finari, on prône quelque chose, c'est l'investissement long terme. Ouais. L'investissement, c'est aussi quelque chose sur le temps long. Donc, il faut investir régulièrement. Maintenant, ce n'est pas le moment de tout mettre sur les bourses parce qu'aujourd'hui, on est à des niveaux records.
Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus débattre avec nous.